Mardi, en début de soirée, deux explosions ont frappé le port de Beyrouth, la capitale du Liban, des explosions dévastatrices, surtout la deuxième, qui ont rayé de la carte le port de Beyrouth et détruit une partie de la capitale, ravagé des vies. Et on en parle avec François Larochelle, ex-diplomate canadien, qui nous avait parlé du Liban. En fait, ce n'était pas moi qui étais au micro de cette émission, mais Monique Kirouac, et on a cru bon le réinviter dans le contexte. Bonjour, Monsieur Larochelle.
Bonjour, Madame Denis.
Alors, rien ne va plus au Liban. Est-ce que vous pouvez nous faire une mise à jour de ce pays dans, justement, le contexte de la catastrophe? Pourquoi ça va si mal?
Ben, écoutez, d'une part, les crises au Liban là, se succèdent. L'histoire contemporaine du Liban est une triste histoire de crises, de guerres et de conflits. Mais plus récemment, le Liban passe à travers une crise financière, économique, politique et sociale.
Sanitaire, environnemental, maintenant.
Oui, tout à fait. Il y a la pandémie aussi qui a frappé le Liban.
Ouais.
Et donc, tout ça arrive en même temps et cette explosion, cette tragédie met en lumière là, toute cette crise, toutes ces crises, en fait, qui se sont accumulées.
Oui.
Et qui touche toute la population libanaise. Surtout, évidemment, les classes les plus pauvres, mais aussi la classe moyenne, parce que il y a beaucoup de chômage, l'inflation est galopante, et vous avez un gouvernement qui est impuissant.
Un gouvernement qui est impuissant?
Oui, parce que il faut expliquer. Bon, d'une part, il faut dire que les gouvernements au Liban, la population là-bas, s'est habitué à se débrouiller par elle-même.
Parce qu'on parle beaucoup de résilience quand on pense au peuple libanais. C'est ce qu'on entend dans le discours même après la catastrophe de mardi.
D'abord, les Libanais sont des gens très débrouillards et on peut le voir nous-mêmes aussi ici à Montréal parce qu'une importante communauté libanaise qui réussit très bien, notamment dans le milieu des affaires. Mais parce que les gouvernements qui se sont succédés au Liban ont été incapables de vraiment de régler quoi que ce soit, les gens ont dû compter sur leurs propres moyens. Et le pays, comme on le sait, c'est un pays aussi qui est très divisé en termes des différentes confessions religieuses, les différentes églises, les différentes branche de l'islam.
Mm-hmm. C'est rien pour aider.
C'est ça, mais souvent, les gens se raccrochent justement à leur église, à leur religion, pour trouver de l'espoir, mais aussi des ressources financières, comme on le voit par exemple, les chiites.
Okay.
Au Liban, se fient beaucoup aux Hezbollah.
Il y a de l'espoir, mais ça crée aussi des conflits.
Ça crée des conflits, et le système politique au Liban est basé sur les confessions. Le président doit être un chrétien, le premier ministre doit être un musulman sunnite et le président de l'Assemblée ou du Parlement libanais doit être un chiite. Et évidemment, souvent, ces gens-là s'arrangent pour qu'on retrouve autour d'eux des gens de même confession ou de la même région. Ce qui fait que c'est un système qui fonctionne, c'est un système qui ne fonctionne plus, qui a peut-être permis la fin de la guerre civile qui a duré des années 75 à 90,
ouais.
Mais qui maintenant est dépassé. Et une partie de la population demande justement que ce système-là soit réformé,
ouais.
Pour permettre à un État libanais de pouvoir fonctionner, de répondre aux besoins de la population.
Mais pourquoi les réformes ne se font pas?
Parce que les gens qui sont en place n'ont pas intérêt à ce que ça se fasse.
Ouais, ils protègent leurs propres petits privilèges, là,
oui,
ou grands privilèges.
Oui, tout à fait. D'autant plus que c'est un pays aussi qui, comme beaucoup d'autres, malheureusement, comme beaucoup d'autres pays de la région, se base beaucoup sur la corruption. Ces gens-là en place, ils trouvent un moyen de faire de l'argent et de s'enrichir souvent. Et donc, non pas, ou tout simplement d'accroître leur pouvoir.
Ils s'enrichissent sur le dos des Libanais ordinaires.
Oui. Et aussi des compagnies qui font affaire au Liban.
Ouais.
Et donc, ces gens-là n'ont pas intérêt à ce que ça change. Et ça dure comme ça depuis belle lurette. Et je vous dirais que c'est difficile d'imaginer, à ce stade-ci de l'histoire du Liban, vraiment des changements substantiels.
Mais là, on le dit, on l'entend, les Libanais sont en colère. Ils le sont depuis longtemps, dis-je bien. Ils font un lien entre les déflagrations puis les autres problèmes. On dit que la classe au pouvoir est incapable de faire des réformes. Alors, est-ce que la colère, les manifestations, même si on interdit les manifestations, mais le peuple manifeste quand même, ça peut aider à transformer le pays?
Écoutez, les manifestations ont vraiment commencé l'automne dernier, là, quand les gens ne pouvaient plus retirer de l'argent des banques pour toutes sortes de raisons, que j'ai expliqué lors de l'autre.
Oui.
Et ça a continué. Et là, la pandémie est arrivée. Évidemment, tout ce mouvement, un confinement là aussi. Le mouvement, c'est pas mal.
Affaibli ou ralenti.
Et là, ça semble recommencer. Le problème de tous ces mouvements-là, et pas seulement au Moyen-Orient, c'est qu'il n'y a pas de leader. Hein? Et puis, les gens ont beau manifester, mais personne ne peut canaliser cette demande de changement. Et ça a tendance à s'étioler, comme on l'a vu dans d'autres pays arabes. Est-ce que cette fois-ci, tantôt je voyais que le président français Macron
était
à Beyrouth, ouais. Et puis que bon, les gens criaient révolution, révolution, révolution. Écoutez, c'est peut-être un moyen qu'auront les Libanais d'obtenir des changements, mais je vous dirais que les gens qui sont au pouvoir, d'abord souvent viennent de grandes familles qui sont là depuis des générations. Ça va être extrêmement difficile de changer tout ce système-là qui est ancré. Bon, il y a le système confessionnel, mais socialement, c'est des vieux pays qui fonctionnent depuis depuis très longtemps. Et changer toute une société comme ça rapidement, c'est pas évident. Moi, je vous dirais que probablement, si je vous faisais un pronostic, oui. C'est que la communauté internationale est prête à aider financièrement le Liban, mais demande des réformes. Et puis, comme on vient de le mentionner, les gens qui sont en place ne veulent pas ces réformes parce qu'ils vont perdre. Ceci dit, ils vont essayer de jouer sur tout ce mouvement-là en direction du Liban qu'on voit à travers le monde, l'aide humanitaire, les communautés libanaises à l'étranger qui s'organisent pour aller porter de l'argent, pour essayer encore une fois d'aller chercher de l'argent de la communauté internationale. Et là, on parle de milliards de dollars ou d'euros. Et vont encore à nouveau réussir à perdurer, ils vont prendre l'argent, certains vont le mettre dans leur poche.
Mais là, ça donne moins envie d'en donner quand on sait que c'est le pouvoir corrompu en place qui va peut-être profiter de l'argent envoyé par les pays aidants.
Oui, mais c'est intéressant de voir que justement, je me demande si c'est pas pourquoi certains pays qui veulent donner de l'aide. Précise qu'ils vont envoyer cette aide par l'entremise des ONG.
Oui, la Croix-Rouge, entre autres.
Exactement, et non pas par le gouvernement libanais, parce qu'ils savent très bien qu'il y a une partie de cet argent-là qui ne se rendra jamais aux populations, va être perdu quelque part, il va se retrouver dans des comptes de banque en Suisse ou ailleurs.
Comme le Canada va envoyer, annoncer 5 millions, il va commencer par 1,5 et il va vraiment surveiller où va l'argent qu'il donne.
Et le président Macron disait aujourd'hui qu'il va revenir au Liban début septembre pour s'assurer que l'aide française a vraiment contribué à améliorer la situation sur le terrain. Donc, il y a quand même un certain scepticisme, disons, des grands pays, parce qu'ils savent que le danger est que l'argent qui va au Liban soit détourné en cours de route.
Oui. Je me demandais hier en préparant cette chronique, ben, c'est vous qui l'avez préparée, mais cet échange avec vous, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'explosion de mardi fait l'affaire aux autorités politiques parce qu'elles auront de l'aide internationale? Mais là, vous venez de nous dire que l'aide internationale va certainement être active, là. Les pays vont donner de l'argent, mais ils vont être plutôt aux aguets parce qu'ils sont sceptiques là, par rapport à ce que le pouvoir en place va faire de cet argent-là.
Tout à fait. Mais il y a deux choses. Il y a l'aide immédiate là, que les pays envoient. Bon, les Français envoient des gens, du matériel. Le Canada va envoyer de l'argent. Mais il y avait aussi ce que le Liban s'est négocié avec le Fonds monétaire international, qui est une aide là, beaucoup plus grande. Et ça, c'était pour remettre l'économie libanaise sur pied.
Oui, parce que le pays est très, très endetté, là.
Le pays est quasi en faillite. Récemment, ils n'ont pas été capables de payer une partie d'un remboursement qu'ils devaient faire. Le pays n'a plus d'argent. Et ça, c'est une autre chose aussi, c'est que ils peuvent dire n'importe quoi, les dirigeants, on va aider, on va reconstruire le port, blablabla, mais ils n'ont tout simplement pas d'argent. Alors, encore une fois, les Libanais sont livrés à eux-mêmes. Par le passé, ils ont réussi à surmonter leurs difficultés. Mais cette fois-ci, là, beaucoup de Libanais pensent que ça a peut-être atteint là, le point de non-retour.
François Larochelle,
la situation actuelle, oui.
Oui, vous ne nous donnez pas beaucoup d'espoir, mais en même temps, vous êtes tout à fait réaliste, mais il faut quand même en garder de l'espoir.
Oui, comme je vous dis, l'espoir du peuple libanais, parce que, écoutez, moi, je me rappelle, j'allais au Liban juste après. Quand j'étais en poste dans la région, je suis allé à plusieurs reprises au Liban juste après la fin de la guerre civile là, dans les années 90. Et on voyait des gens, on parlait aux gens et les gens qui, malgré tout, avaient passé à travers des périodes très, très difficiles, ben, ils se disaient, on va reconstruire le Liban, on est fort, on va être capable de remettre le Liban sur pied. Et jusqu'à un certain point, on réussit à le faire. Mm-hmm. Alors, je dirais que l'espoir, c'est, comme vous le disiez vous-même, c'est la résilience et c'est aussi la débrouillardise du peuple libanais. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'un détail dont il faut se rappeler, c'est qu'il y a plus de Libanais à l'extérieur du Liban, en Amérique du Sud, au Canada, en Europe. Et ces communautés, cette diaspora, peut aider financièrement le Liban jusqu'à un certain point, là, mais disons que l'espoir viendrait de là.
Oui, et on espère que le monde restera attentif à tout ce qui se passe au Liban et que ce ne soit pas comme éphémère, comme intérêt qu'on veut porter à ce pays.
Tout à fait. Le Liban, malheureusement, revient dans l'actualité internationale seulement quand il y a des catastrophes.
Ah oui.
Et il faudrait que le Liban, que les médias, les journalistes, que les populations en général s'intéressent au Liban au-delà de tel ou tel événement dramatique que vit le pays.
Bien, François Larochelle, ex-diplomate canadien, un grand merci encore une fois pour votre collaboration. On pense aux Libanais, à la communauté libanaise établie ici. Je lisais ce matin que le Canada compte 270 000 personnes d'origine libanaise. Mm-hmm. Et on aura l'occasion d'y revenir certainement avec vous. Merci François Larochelle, au plaisir.
Merci beaucoup, au revoir.